Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration des sources. On est mi-octobre 2025 et cette semaine, on plonge dans le numéro 101 de Logi eWeek, un numéro particulièrement dense.
Oui, bonjour. Effectivement, ça part un peu dans tous les sens. Diplomatie, économie marocaine, avancées scientifiques assez étonnantes, tensions sociales aussi, et puis le contexte international toujours agité.
Exactement. Notre mission, si on l'accepte, c'est d'essayer de décortiquer tout ça, de voir les points saillants, les faits marquants et peut-être les liens qu'on ne voit pas au premier coup d'œil. Comprendre les dynamiques clés, en somme.
C'est ça. On va essayer de naviguer dans cette actualité foisonnante au Maroc et ailleurs.
Alors, au menu aujourd'hui, la stratégie diplomatique marocaine qui semble marquer des points, les défis internes du royaume, une percée scientifique qui fait un peu rêver ou peur, on verra, et puis un tour d'horizon des points chauds géopolitiques.
Un programme chargé. Commençons peut-être par la diplomatie marocaine. Elle semble plutôt sur une bonne lancée en ce moment.
Oui, tout à fait. Le premier gros dossier qui ressort, c'est cet accord agricole entre le Maroc et l'Union européenne. Il y a eu un amendement important, c'est une victoire pour Rabat, n'est-ce pas?
Ah oui, clairement. Il faut se souvenir d'où on vient. La Cour de justice de l'UE, la CJU, avait pris une décision qui excluait les produits venant des provinces du Sud des tarifs préférentiels. C'était un vrai problème pour le Maroc.
D'accord. Et la réaction marocaine?
C'était non négociable sur ce point.
Mais ils ont quand même laissé une porte ouverte sur la forme. Une certaine souplesse.
C'est exactement ça. Ils ont été fermes sur le principe, mais prêts à discuter des modalités pratiques. Par exemple, accepter des ajustements sur l'étiquetage des produits, histoire de respecter le cadre légal européen, mais sans céder sur l'essentiel, l'intégrité territoriale.
Et ça a fonctionné?
Oui, la stratégie a payé. L'amendement qui a été adopté rétablit ces fameuses préférences tarifaires pour les produits de tout le territoire marocain, y compris les provinces du Sud.
Ce qui est quand même interprété comme une reconnaissance implicite de Bruxelles. Surtout que, comme le dit la source, 20 pays membres sur 27 soutiennent maintenant le plan d'autonomie marocain. C'est pas rien.
Non, c'est significatif. Et ça montre comment ce succès s'inscrit dans une stratégie plus large du Maroc. Il faut voir le lien avec les investissements massifs dans les provinces du Sud.
Ah oui, les chiffres sont impressionnants. 8 ou 9 milliards de dollars depuis 2015.
Oui, c'est ça. Pour construire des routes, des ports, on pense au grand port de Dakhla Atlantique, des universités. L'idée, c'est vraiment de rendre la souveraineté marocaine très concrète par le développement économique.
Et de positionner la région comme une porte d'entrée vers l'Afrique subsaharienne.
Exactement. C'est un hub en devenir. Donc, cet accord agricole, ce n'est pas juste une question commerciale, même si les échanges avec l'UE sont énormes, près de 60 milliards de dollars par an.
C'est aussi un signal géopolitique fort envoyé par Bruxelles.
Tout à fait. L'UE prend acte d'une réalité économique et politique sur le terrain. Et cette volonté marocaine de mettre en avant le potentiel du Sud, on l'a vu aussi avec le Forum économique France-Maroc.
Qui s'est tenu à Dakhla. Choix très symbolique.
Très symbolique, oui. Un an après la visite d'État d'Emmanuel Macron et sa déclaration reconnaissant la souveraineté marocaine sur le Sahara. Ça montre bien le réchauffement des relations entre Rabat et Paris après une période un peu plus froide, disons. Ce forum, c'était l'occasion de renforcer les liens entre les patronats, la CGM marocaine et le MEDEF français.
Et d'identifier des projets concrets, j'imagine.
Structure, le tourisme, l'agroalimentaire, le numérique, Dakhla comme vitrine en somme.
Et le Maroc ne regarde pas que vers le nord. Les relations sud-sud restent une priorité, visiblement. La visite de Nasser Bourita à Dakar, par exemple.
Oui, visite importante. Juste après l'élection du nouveau président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, et de son premier ministre, Ousmane Sonko. Le message était clair, hein. On réaffirme notre partenariat stratégique, qui est souvent qualifié de modèle.
Renforcer la coopération sud-sud.
Voilà, il prépare d'ailleurs la prochaine haute commission mixte entre les deux pays. Ça couvre plein de domaines, hein. Économie, énergie, diplomatie, formation, culture, sécurité aussi.
D'accord, bon, changeons de registre. Si on regarde maintenant ce qui se passe à l'intérieur du Maroc, les sources évoquent des tensions sociales et des réponses judiciaires et sécuritaires assez nettes.
Oui, c'est un autre pan de l'actualité. On a eu cette condamnation, assez lourde, 10 ans de prison ferme à Al-Qliya, près d'Agadir. C'était pour un jeune impliqué dans des émeutes.
Avec des dégradations, incendies, violences contre la police.
C'est ça. Et ça survient dans un contexte où on sent des frustrations sociales, économiques, particulièrement dans cette région, chez les jeunes notamment. Ça pose la question de la jurisprudence future face à ce type de violences urbaines.
Et en parallèle, il y a eu ce mouvement Gen Z212. Ils ont fait une pause dans leur manifestation, c'est ça?
Oui, ils ont annoncé une suspension stratégique, selon leurs termes, juste avant le discours royal d'ouverture du Parlement. L'objectif affiché, c'est de se restructurer, de mieux se coordonner pour avoir plus d'impact.
Mais les revendications restent les mêmes.
Apparemment, oui. Démission du gouvernement, reddition des comptes, des réformes de fond sur l'éducation, la santé, c'est ce qu'ils continuent de porter.
Et la réponse des autorités face à ces mobilisations?
Les chiffres donnés par les sources sont assez parlants. Plus de 400 interpellations lors des précédentes manifestations et près de 200 personnes poursuivies en justice, avec des peines qui peuvent être très lourdes, notamment à Salé, où on parle de 15 à 20 ans, ou encore 4 ans à Agadir pour quelqu'un accusé d'incitation via les réseaux sociaux, donc une réponse firme.
Ce climat social donne un éclairage particulier au discours royal du 10 octobre, qui justement ouvrait la session parlementaire. Il y a une analyse intéressante dans les sources qui décortique un peu la méthode royale.
Oui, cette analyse pointe 5 repères, 5 axes forts dans le discours. Le premier, c'est l'idée de l'utilité du Parlement. Son travail doit être évalué à l'aune de son impact réel sur la vie des gens.
D'accord. Le deuxième?
Le renforcement de ce que le discours appelle l'ossature sociale et territoriale, l'image d'un Maroc en ascension qui consolide ses bases.
Le troisième point insiste beaucoup sur les résultats, j'ai l'impression.
Ah oui, c'est très net. Une vraie discipline de résultats est demandée. Il faut exécuter les plans, suivre avec des données précises, évaluer les politiques publiques. Fini les effets d'annonce sans suivi.
Il y a aussi une feuille de route territoriale plus précise.
Les côtes. Mais aussi les centres ruraux qui émergent. Et puis le cinquième point qui est peut-être le plus important.
La dimension éthique.
Voilà. Probité, service de l'intérêt général, lutte contre la corruption. Le message global, c'est un peu un pacte, une vision claire, de l'éthique, de l'exécution rigoureuse. C'est ça qui doit construire la confiance et permettre de réaliser l'état social promis.
Et cette exigence de rigueur, elle descend jusqu'au niveau local, si j'ai bien compris, avec une circulaire du ministère de l'Intérieur sur les budgets des communes et des régions.
Tout à fait. Plus de rigueur, plus d'efficience, des résultats concrets attendus. Chaque dirham dépensé doit répondre à un besoin réel et s'aligner sur les grands chantiers nationaux. Infrastructure, santé, éducation. Optimiser la dépense publique, quoi.
Dans cet esprit de réforme, il y a aussi ce projet de loi sur les chèques sans provision.
Oui, le projet de loi 71.24, l'idée c'est d'assouplir un peu le cadre légal, de trouver des alternatives à la prison. Parce que le problème est massif. Hein. Les sources parlent de presque 1 million d'incidents de paiement sur chèque en 2024. C'est énorme.
Ça touche beaucoup de monde. Et la lutte contre la corruption continue d'être une priorité affichée.
Visiblement, l'Instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption, l'INANPPC, lance une étude spécifique sur le secteur de la santé, un secteur jugé sensible où les risques de corruption sont importants.
D'accord. Sur le plan de la sécurité, plus classique, on note aussi des actions contre le trafic de drogue.
Oui, une grosse saisie à Safi. 4,7 tonnes de shira, de résine de cannabis. C'est une opération conjointe de la police, DGRSN, et du renseignement intérieur, DGST. Ça fait suite à une autre saisie de 3 tonnes à Guelmim en septembre. Ça suggère que la pression est maintenue sur les réseaux, notamment ceux qui tentent d'exporter vers l'Europe par voie maritime.
Et l'autre grand front de la sécurité aujourd'hui, c'est le numérique, la cybersécurité. Mmh. Ah bah là, les chiffres donnent le tournis. Kaspersky a bloqué plus de 21 millions de tentatives d'attaque au Maroc juste sur le premier semestre 2025.
21 millions, voilà. C'est considérable.
Oui, les administrations, les entreprises, surtout les PME qui sont souvent moins protégées, sont des cibles constantes. Les attaques sont de plus en plus sophistiquées, les ransomware font des ravages.
Mais le niveau de défense marocain est jugé bon? Oui, comparable à ce qu'on voit en Europe ou aux États-Unis, selon Kaspersky. Mais il faut constamment investir. D'ailleurs, le ministère de l'Intérieur vient de lancer un appel d'offres de près de 34 millions de dirhams pour renforcer la cybersécurité de son siège et de 83 préfectures. Pare-feu, détection d'intrusion, formation du personnel, c'est un effort continu.
Bon. On change radicalement de sujet maintenant, on passe à la science, avec une nouvelle qui a fait beaucoup parler. Des chercheurs auraient réussi à créer des ovules humains en laboratoire, à partir de cellules de peau. Ça semble fou.
Oui, c'est une publication de chercheurs de l'Université de l'Oregon qui a eu un écho énorme. C'est la première fois qu'on arrive à obtenir des ovules humains qui semblent fécondables en utilisant cette technique qu'ils appellent mitoméose. C'est potentiellement une révolution pour l'infertilité.
Alors, mitoméiose, ça a fait un peu peur.
En termes simples, comment ça marche ?
Alors, en gros, on prend une cellule de peau d'une femme, par exemple. On récupère son noyau, qui contient toute son ADN. Parallèlement, on prend un ovocyte d'une donneuse, mais on lui enlève son propre noyau.
D'accord.
Ensuite, on insère le noyau de la cellule de peau dans l'ovocyte vidé. Et l'étape cruciale, c'est qu'on active chimiquement cet ovocyte reconstruit pour qu'il fasse ce qu'un ovule normal fait avant la fécondation. Il doit se débarrasser de la moitié de ses chromosomes. C'est ça, la méiose simulée en quelque sorte.
Et cet ovule fabriqué, il peut être fécondé après ?
C'est ce que l'étude a montré, oui. Ils ont réussi à féconder certains de ces ovules reconstruits avec du sperme. Et certains embryons ont commencé à se développer. Jusqu'au stade de blastocyste, c'est un stade très précoce, quelques jours après la fécondation.
C'est incroyable. Mais le taux de réussite est encore bas, hein ?
Oui, très modeste pour l'instant. Dans l'étude, seulement 9% des ovules reconstruits ont atteint ce stade de blastocyste. Et il y a encore beaucoup de questions sur la normalité chromosomique de ces embryons. Il y avait pas mal d'anomalies.
Mais l'espoir est immense pour les femmes qui n'ont plus d'ovocytes, à cause de l'âge, d'une maladie, d'un traitement comme la chimio, la possibilité d'avoir un enfant qui porte leur gène.
C'est ça, l'immense promesse. Avoir un enfant génétiquement sien, même sans ovocytes fonctionnels. Mais attention, les chercheurs eux-mêmes sont très prudents.
Il faut du temps.
Beaucoup de temps. Ils parlent d'au moins une dizaine d'années de recherche supplémentaires pour améliorer la technique, s'assurer qu'elle est sûre, qu'elle ne crée pas de problèmes de santé. Et puis, il y a toutes les questions éthiques.
Oui, forcément.
Qui sont énormes, donc c'est une avancée scientifique majeure, une porte qui s'ouvre, mais on est encore loin, très loin des applications cliniques.
D'accord. Restons dans le monde de la tech, mais avec des nouvelles plus terre-à-terre, on va dire. Chez Spotify, le fondateur s'en va.
Oui, Daniel Ek, la figure emblématique de Spotify, a annoncé qu'il quitterait son poste de PDG en 2026. Mais bon, il ne part pas très loin, il reste président exécutif.
Et il est remplacé par un duo qui était déjà là ?
Exactement. Gustav Söderström et Alex Norström, qui étaient co-présidents depuis 2023, deviennent co-PDG. Donc, a priori, ça devrait assurer une certaine continuité pour les utilisateurs et la stratégie de l'entreprise.
Chez WhatsApp, il y a cette rumeur persistante de noms d'utilisateurs.
Ah oui, ça revient souvent, notamment via le site WBeta Info, qui est généralement bien informé. L'idée serait de pouvoir communiquer avec quelqu'un sans avoir besoin de son numéro de téléphone, juste avec un pseudo.
Ce serait un changement assez fondamental pour l'application, non ?
Oui, ça la rapprocherait d'autres messageries comme Telegram ou Signal sur ce point. Ça pourrait changer pas mal de choses dans la façon dont on l'utilise, notamment pour les contacts moins personnels ou les groupes, à suivre.
Pendant ce temps, Apple est sous le coup d'une enquête à Paris. À cause de Siri ?
Oui, suite aux accusations d'un lanceur d'alerte, Thomas Le Boniac, qui affirme qu'il y avait des écoutes via l'assistant vocal, Siri. Une enquête a été ouverte.
Et la défense d'Apple ?
Apple dit que oui, ils analysent des requêtes Siri, mais seulement un tout petit pourcentage, 0,2%, que c'est anonymisé et que c'est fait uniquement avec le consentement de l'utilisateur, dans le but d'améliorer Siri. C'est un peu le débat classique sur la confidentialité et les assistants vocaux.
Et sinon, côté pratique, la dernière mise à jour iOS intègre les cartes d'embarquement dans l'appli Carte.
Oui, iOS 26, des cartes d'embarquement intelligentes qui pourraient afficher des infos en temps réel, par exemple. C'est le genre de petite amélioration continue chez Apple.
Pour finir sur la tech, mais sur un ton moins réjouissant, les sources citent des exemples de cyberattaques qui ont touché de grosses entreprises industrielles.
Oui, c'est pour illustrer la vulnérabilité. Jaguar Land Rover, au Royaume-Uni, a dû carrément arrêter sa production après une attaque. Ils ont même eu besoin d'un prêt garanti par l'État pour s'en sortir.
Ah oui, quand même.
Et au Japon, c'est le géant des boissons Asahi qui a eu ses systèmes paralysés. Ça montre bien que même les très grands groupes industriels, avec leurs chaînes de production complexes, sont hyper vulnérables. L'impact économique peut être énorme.
Bien, terminons notre tour d'horizon avec l'international. Là aussi, l'actualité est chargée. Au Proche-Orient, enfin un accord de cessez-le-feu à Gaza ?
Oui, un accord a été conclu entre le Hamas et Israël après 2 ans d'une guerre qui était absolument terrible. On parle de plus de 67 000 morts. C'est le fruit d'une médiation des États-Unis, du Qatar et de l'Égypte.
C'est une première étape, j'imagine.
Oui, c'est la première phase d'un plan plus large qui reste à négocier. Cette première phase prévoit un retrait progressif des soldats israéliens de certaines zones, un échange de prisonniers.
Les chiffres sont précis.
On parle de 20 otages israéliens vivants et des corps de 28 autres contre 2 000 détenus palestiniens. Il y a aussi une augmentation de l'aide humanitaire, 400 camions par jour au début, et le début du retour des déplacés palestiniens vers le nord de Gaza.
C'est une lueur d'espoir, mais...
Beaucoup d'incertitudes demeurent.
Énormément. Est-ce que les engagements seront tenus, notamment côté israélien? Comment vont se passer les négociations sur la suite, sur la deuxième phase du plan de Trump qui est censé suivre? La confiance est quasi nulle. Donc oui, une avancée, mais très fragile.
Et toujours en lien avec Gaza, cette flottille, Soumoud, qui a été interceptée par Israël.
Oui, la flottille humanitaire. La plupart des militants internationaux à bord ont été expulsés, y compris Greta Thunberg d'ailleurs. Mais il resterait deux participants marocains, Aziz Ghali et Abdelazim Ben Deraoui, qui seraient toujours détenus par Israël. Et il y a des inquiétudes sur leur sort.
Oui, des ONG marocaines et internationales ont lancé une pétition pour leur libération. Elles relaient des allégations de mauvais traitement. C'est une situation suivie de près.
Autre point chaud, la Syrie, toujours aussi compliquée. Un cessez-le-feu à Alep.
Oui, un cessez-le-feu qualifié de très fragile entre les forces du régime et des unités kurdes après de nouveaux affrontements. L'accord repose sur des mécanismes pour éviter l'escalade et pour essayer de communiquer. L'espoir, c'est que ça permette l'arrivée d'aide humanitaire et la reprise de services de base. Mais bon.
La stabilité est loin d'être garantie.
C'est le moins qu'on puisse dire. Et en parallèle, il y a cette tentative de processus politique avec la désignation du premier parlement post-Assad.
Une étape symbolique, mais on imagine que la route est longue avant une vraie transition.
Colossale. Comment on définit les règles du jeu? Comment on inclut les millions de Syriens qui sont déplacés ou réfugiés? Comment on assure la sécurité pour que les gens puissent participer? Et le pluralisme politique, ce sont des défis immenses pour la légitimité de ce processus et pour imaginer l'après-guerre.
Pour finir ce tour du monde, deux dernières infos. Le prix Nobel de la paix 2025.
Il a été attribué à l'opposante vénézuélienne Maria Corina Machado. C'est une reconnaissance de ses efforts pour une transition démocratique pacifique au Venezuela face au régime de Maduro. Un symbole fort de résistance civile. Et non, ce n'est pas Donald Trump qui l'a eu, même si son nom circulait.
D'accord. Et un petit mot sur la France, qui a vécu une sorte de mini-crise politique éclair.
Oui, assez surprenant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu, à peine nommé, a démissionné très rapidement. Du coup, Macron l'a chargé d'une mission un peu désespérée, essayer de négocier une plateforme de stabilité avec les oppositions avant de nommer quelqu'un d'autre.
Mais ça semble compliqué.
Très compliqué. Le risque de blocage total à l'Assemblée nationale est énorme. Ça rend la fin de mandat de Macron particulièrement incertaine.
Bon, eh bien, on arrive au bout de cette exploration très riche. Si on essaie de synthétiser, on a vu une diplomatie marocaine plutôt active et qui marque des points importants, que ce soit avec l'UE, la France ou ses partenaires africains.
Oui, une affirmation sur la scène internationale, mais en parallèle, on voit bien les défis internes qui restent considérables. Les tensions sociales, les questions de sécurité, la nécessité de réformes profondes pour répondre aux attentes. L'État y répond par la fermeté judiciaire, mais aussi par cette volonté affichée de réforme et de rigueur dans la gouvernance.
Et puis, il y a ces avancées scientifiques, comme celle sur les ovules artificiels. C'est fascinant, ça ouvre des perspectives dingues, mais ça soulève aussi des questions éthiques vertigineuses, dont on n'a pas fini de débattre.
Tout à fait. Et tout ça se déroule dans un contexte international qui reste marqué par l'instabilité. Des conflits qui s'éternisent, comme à Gaza, même si une pause est là, des processus politiques fragiles, comme en Syrie, et même des démocraties bien établies, comme la France, qui traverse des zones de fortes turbulences.
Une dernière question, une réflexion pour conclure. Face à toutes ces dynamiques, l'affirmation des États, les aspirations sociales qui montent, les révolutions technologiques qui vont très vite, et ce désordre mondial ambiant, comment est-ce que les sociétés, et nous, individuellement, on peut naviguer? Comment trouver un équilibre entre ce besoin de stabilité collective et la gestion d'incertitudes personnelles qui semblent grandir?
C'est une excellente question. Et ça pose aussi la question de la place de l'éthique, de la responsabilité dans tout ça, que ce soit dans les choix diplomatiques face aux dilemmes que nous posent la science et la technologie, ou dans la manière dont on répond aux tensions sociales, qui expriment souvent une demande profonde de justice et de reconnaissance. Arriver à naviguer cette complexité en gardant un cap, en se posant ces questions éthiques, c'est peut-être ça le grand défi de notre époque. Qu'en pensez-vous ?